on est venu s'installer, ma femme et moi, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, on s'est posé la question de savoir pourquoi toutes les maladies rares s'étaient donné rendez-vous dans notre salle d'attente. Donc là, on s'est posé pas mal de questions.
Bonjour à tous. L'étang de Berre est la plus grande zone industrielle de France. Un port pétrolier, des raffineries, des industries lourdes comme la pétrochimie ou encore la sidérurgie. Et bien malgré tout cela, des pics de pollution y sont rarement déclenchés, contrairement aux alertes de plus en plus récurrentes à Paris, Marseille ou Grenoble. Ce qui soulève une question simple, la pollution industrielle y est-elle bien mesurée? Pour répondre à cette interrogation, Géraldine Allot est allée dans l'ouest de l'étang de Berre et ses 29 sites Céveso. Elle est allée précisément entre Port-Saint-Louis et Fos-sur-Mer, deux villes industrielles distantes d'une vingtaine de kilomètres, dans un paysage dominé par des cheminées qui crachent leur fumée. C'est dans ces deux villes du pourtour industriel qu'une étude sanitaire a été menée sur près de 3 ans. Conclusion, il y a ici deux fois plus de cancers que dans le reste de la France. Même proportion troublante pour des maladies chroniques comme l'asthme ou le diabète. La main qui nourrit les 40 000 salariés du site est-elle la même qui les tue à petit feu? Le golfe de Fos-sur-Mer est prospère sur le plan économique, mais c'est aussi un désastre sur le plan sanitaire. Pollution industrielle, des particules et des hommes, c'est un reportage de Géraldine Allot et François Rivalan à la prise de son.
Interception, le magazine de la rédaction.
Si vous le voulez bien, on va se mettre face à la mer. Est-ce qu'on peut faire un petit tour 360 degrés pour donner à voir ce que nous, on voit?
Cette plage est très réputée, vu que vous voyez le sable qu'il y a. L'étendue d'eau qui est très plate, qui est très belle, elle est très fréquentée cette plage en été. Et après le contraste, c'est que si on fait 180 degrés, dans le dos nous avons les usines.
Devant nous il y a des gros tankers, des chimiquiers.
Oui.
À droite.
À droite c'est GDF LNG.
Un terminal méthanier.
Un terminal méthanier.
Derrière nous.
ArcelorMittal. La plus grosse aciérie de France encore. Dans mon dos, carrément, c'est DPF, Dépôt Pétrolier de France, avec ces immenses cuves qu'on voit, hein, qui y a. Juste un petit peu encore en tourne, c'est Esso, une grosse raffinerie du coin. Après, un peu plus loin, c'est qu'on voit les gros bacs derrière au fond, société du pipeline sud-européen. Donc on est entouré quand même passablement d'industrie. On vit avec ça, avec les usines. Daniel Moutet, président de l'association Défense et Protection Littorale du Golfe de Fos. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que nos usines polluent quand même énormément. On peut dire que Fos est une ville où l'on vit très bien. Parce que c'est une commune riche. Grâce à ça, le Fosséen, il a tout ce qu'il veut. Il a tous les loisirs qu'il veut. Beaucoup de choses sont gratuites. Des gymnases en pagaille, piscines, terrain de boules couverts. Enfin, il y a tout. Et de l'autre côté, il faut vivre avec les industries à côté. Et malheureusement, c'est très difficile pour lutter contre ces industries. Parce que de suite, ils nous disent, vous les confirmez alors ? Non, moi je ne demande pas de fermer. Il faut arriver à trouver des moyens, ça coûtera ce que ça coûtera, parce qu'ils en gagnent de l'argent. Il faut arriver à trouver des moyens, qu'il n'y ait plus ces panaches de fumée, qu'il n'y ait plus de cette pollution qu'on voit quotidiennement. Hein.
C'est un air empoisonné qu'on respire ici, en silence?
Oui, oui, oui. Vous avez dit le mot, en silence, malheureusement, on nous laisse respirer cet air-là, je dirais. Parce que tout le monde sait. Les pouvoirs publics, hein, je m'entends. Tout le monde sait. Et il faut arrêter ça. Pour moi, c'est une hémorragie qui est sans fin quoi, aujourd'hui. Hein. Il faut arriver à arrêter ça. C'est pas normal qu'il y ait autant de malades, autant de morts, de cancers, autant de tout ça. C'est pas normal.
Bonjour.
Bonjour madame. Chanté.
Vous êtes Sylvie ?
Oui, tout à fait.
Sylvie Hanan ?
Oui, tout à fait, c'est ça.
Vous avez quel âge ?
J'ai 54 ans.
Et vous vivez ici depuis ?
Depuis l'âge de 6 ans. Voilà.
Vous nous faites visiter un peu votre jardin ?
Oui, tout à fait. Allez, on peut y aller.
Fosse.
Oui, au quartier des Crottes, tout au nord de Fosse. Voilà, ici nous sommes au fond du jardin et comme vous pouvez voir, ben, nous avons une vue sur les bacs. Des bacs de pétrole et après sur la campagne. Voilà.
Ces bacs de pétrole, c'est quoi ? C'est un dépôt pétrolier ?
Oui, tout à fait. Oui. Oui, oui.
Donc vous êtes à quoi ? 500 mètres ?
À peu près, oui. Ouais, ouais.
Vous êtes venu vous installer après ?
Eux, j'y étais déjà. Nous, on est venu après.
Et alors, qu'est-ce qui se passe avec ces grosses cuves de pétrole ?
Ben, les cuves elles-mêmes, c'est des stockages, hein, ça passerait. Mais c'est plutôt les fumées qui sont un peu plus loin, hein, avec les usines pétrochimiques et les usines sidérurgiques, voilà, qui dégazent, qui envoient des fumées ou blanches, ou rouges, ou noires. Ça dépend des jours, voilà.
Ça se manifeste comment, ces rejets, quand ils retombent ensuite ?
Alors, ça se manifeste par des petites particules qu'on trouve sur nos tables de jardin, nos chaises, nos piscines. Ces particules qui sont extra-fines, hein, nous rentrent dans notre corps aussi. On en balaye sur les terrasses, on en balaye partout. Voilà.
On va rentrer chez vous ?
Allez, d'accord.
Vous avez des poules ?
Oui, oui. Des poules, des canards, des oies.
Est-ce que vous pouvez, Sylvie Hanan, nous faire un petit peu la liste, si on peut parler ainsi, de toutes vos pathologies ?
Oui. Alors, j'ai commencé par avoir une maladie cardiovasculaire. J'ai enchaîné sur un cancer de l'ovaire. Ensuite, j'ai développé un diabète. Et ça n'est suivi par la suite un cancer de la thyroïde. Et là, j'ai un cancer du sein en ce moment. Et voilà, bon, je suis toujours là, je suis contente.
Donc, 3 cancers en l'espace de combien de temps ?
Alors, j'ai commencé à être malade à 38 ans et là, j'en ai 54.
Vous êtes suivie, évidemment, médicalement. Qu'est-ce que vous disent vos médecins ?
Ils disent que c'est des cancers féminins, d'abord. Après, non, ils ne parlent pas de pollution. La plupart des médecins ne se sentent pas impliqués. Il y en a juste un qui m'a simplement répondu. Moi, ben, c'est pour ça que j'habite Aix. Voilà. Bon. Après, est-ce que Aix, c'est moins pollué ? Ça... C'est entre guillemets. On ne va pas dire que le nuage stagne sur Fosse non plus.
Ça vous étonne, justement, qu'il n'y ait pas plus de prise en compte de la part des médecins, des pouvoirs publics ?
Ah oui, tout à fait. On est étonnés, mais même ça paraît surréaliste parce que quand on voit le défilé des ambulances en ville, le nombre de malades. Quand on va à l'IPC à Marseille, alors l'IPC, c'est l'Institut Paoli Calmette, centre de cancéreux de Marseille. Lorsqu'on y va là-bas, ben, on se retrouve qu'on est pas mal de fosses, quoi, quand même. On se reconnaît. On est dans la salle d'attente, puis on se reconnaît. On se dit, ah ben oui, toi aussi, t'habites en fosse. Ben oui, moi aussi. Les taxis font les va-et-vient, les ambulances aussi. Je sais pas, je ne comprends pas.
Vous en voulez aux industriels ?
On peut pas dire qu'on en veut, on a le travail. On est quand même pratiquement nés ici. On a fait toute notre vie ici. Pourquoi serions-nous obligés de partir, nous ? Pourquoi ce ne seraient pas les entreprises qui feraient un effort supplémentaire, je veux dire ? Ils en font déjà, mais peut-être ce n'est pas assez. Et c'est vrai que les particules sont plus petites, mais est-ce qu'on ne pourrait pas encore, à part peut-être des filtres plus serrés, recueillir encore plus de particules au niveau des sorties de cheminée, je ne sais pas, faire quelque chose, quoi, pour qu'on ait moins de pollution. Et surtout, peut-être, ces panaches de fumée qu'on voit, c'est impressionnant. Il y a des fois, le nuage, un coup, il est rouge, jaune, noir, voilà, et ça passe, ça repasse.
Est-ce que vous savez au moins ce qu'il y a dedans, dans ces fumées ?
Ah ben non, ça non. Non, c'est pas du tout.
Vous ne savez pas du tout ce que vous respirez ?
Non. Ben non.
Début 2017, une étude indépendante qui s'appelle Fossepseal et qui est pilotée par une chercheuse américaine, Barbara Allen, a démontré qu'à Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône, il y avait deux fois plus de cas de cancer, d'asthme et de diabète qu'ailleurs en France.
Yolaine Ferrier, j'ai coordonné l'étude Fossepseal entre 2015 et 2017, ici à Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Sur le fond de cette étude, elle montre donc qu'il y a un impact réel de la pollution sur la santé des habitants. On a plus de cancers ici, on a plus d'asthme, on a plus de diabète, on a plus de maladies auto-immunes.
Donc oui, à partir de là, nous avons vu qu'il y avait un écart considérable, souvent le double, dans notre échantillon de population par rapport à la population en moyenne en France. Par exemple, pour le cancer, dans l'étude, nous avons, après standardisation, un niveau de cancer de 10%, donc quasiment un habitant sur 10 a ou a eu un cancer dans sa vie, alors qu'en France, les chiffres de l'Institut national du cancer nous donnent un chiffre qui avoisine les 6% de la population. Pour le diabète, c'était encore plus parlant, puisque là, on avait clairement le double au niveau de notre mesure à nous. Et pour le diabète de type 1, nous avions une proportion qui quadruplait.
Yolaine Ferrier, est-ce que cette étude fait un lien direct entre ces maladies et la pollution industrielle ?
L'étude ne fait pas un lien direct entre les maladies et la pollution industrielle. Par contre, elle établit une forte présomption de ce lien, puisque ce qui différencie le mode de vie et la vie quotidienne de ses habitants par rapport à la moyenne des habitants en France, c'est justement leur proximité depuis plusieurs décennies avec la zone industrielle.
En 2005, le préfet de l'époque avait dit lors d'une réunion publique « C'est normal s'il y a plus de cancers à Fos parce que les ouvriers boivent et fument. » 12 ans après, ça vous inspire quoi, ce genre de réflexion ?
Bien, tout d'abord, ça me rappelle vraiment les discours des années 50. En fait, dès le départ, il y a eu cette forme de mépris de la population locale et surtout de l'état de santé de la population locale. Et ces sortes de préjugés, en fait, qui commencent à dater, finalement. Et nous, à l'échelle de notre étude, nous avons bien sûr documenté, par exemple, le tabagisme, qui n'est pas plus important que la moyenne nationale, et même un tout petit peu plus faible. Et il est certain que, d'un point de vue individuel, nous pouvons toujours trouver des profils de personnes qui sont alcooliques ou qui fument énormément dans ces deux villes, comme partout ailleurs. Mais en aucun cas, ça peut être une explication à l'échelle collective pour expliquer tous les écarts que l'on trouve dans les états de santé locaux.
On est dans le quartier des Carabins, à Fos, tout près des usines. Et ce qui saute aux yeux, ou plutôt au nez, c'est cette odeur d'œuf pourri, ou de choux pas très frais qu'on aurait oublié pendant des semaines dans le frigidaire. C'est une odeur âcre, désagréable, ça sent pas bon.
Vincent Bezin, vous qui êtes médecin généraliste ici à Port-Saint-Louis, vous vous en doutiez qu'il y avait plus de cancers ici qu'ailleurs en France ?
Alors, il n'y avait aucun doute là-dessus, parce que quand on est venu s'installer, ma femme et moi, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, on s'est posé la question de savoir pourquoi toutes les maladies rares s'étaient donné rendez-vous dans notre salle d'attente. Et en particulier, on était très surpris, puisqu'on parle de cancer dans cet instant, on était très surpris de la fulgurance des cancers, de leur extrême rapidité. De la même façon, on était surpris du fait que les pathologies graves, cardiovasculaires ou cancéreuses ou immunologiques, survenaient très tôt dans la vie des gens. Donc là, on s'est posé pas mal de questions, en effet.
Vous êtes un peu l'interlocuteur premier de tous les habitants en tant que médecin généraliste. Donc vous avez pu constater justement cette prévalence plus importante ?
Alors, la prévalence, elle sautait aux yeux. Nous arrivions de Grenoble, qui n'est pourtant pas une ville particulièrement saine sur le plan de la pollution. Mais en arrivant ici, on avait l'impression d'être sur une autre planète. Tous les chiffres étaient multipliés par 5 ou 6 minimum. Des troubles ou des nosologies qu'on ne voit qu'une fois dans une vie de médecin, eh bien, au bout de 5 ans, on les avait tous vus ici.
Est-ce qu'en tant que médecin, vous faites un lien direct avec la pollution industrielle ?
Alors, nous sommes amenés à faire un lien direct, mais ça n'est pas venu du premier coup. Dans un premier temps, on s'est évidemment demandé, mais pourquoi les gens sont dans cet état-là ? Pourquoi la situation sanitaire de la population est aussi mauvaise ? Alors, dans un premier temps, on a incriminé des postes de travail difficiles, mais quand on s'adresse à la population d'enfants ou à la population des femmes qui ne travaillent pas, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, à partir de là, et surtout parce qu'on a été bouleversé par la situation des sanitaires des enfants en matière de diabète de type 1, en matière d'asthme et en matière de maladies auto-immunes, que l'on s'est dit, il y a quelque chose dans le milieu ambiant qui est responsable de ça. Alors le quelque chose, évidemment qu'on a tourné rapidement nos yeux vers la zone industrielle, et c'est là que nous avons rencontré quelques militants qui nous ont expliqué le contenu de la zone industrielle. Et à partir de là, nous avons commencé à parler, entre nous au moins, de maladie de la pollution, sans savoir exactement ce qu'on allait mettre dans ce vocable, mais ça nous permettait au moins de réfléchir et de penser la question.
Est-ce que le lien est avéré aujourd'hui entre ces maladies et la pollution, avec toutes les études qui sont sorties ?
Alors, à bien des égards, le lien est avéré parce que on sait, par exemple, que les microparticules sont responsables du diabète de type 1 de l'enfant. Des liens étaient connus entre leucémie, maladie auto-immune et raffinerie, puisque je me rappelle qu'il y a 40 ans, quand je faisais mes études de médecine, on nous disait la leucémie, c'est la maladie de la station-service. Alors évidemment, le golfe de Fos étant la station-service de l'Europe, il n'y a pas de surprise à trouver 2,5 fois plus de leucémie qu'ailleurs.
Mais pourtant, les autorités ne font pas de lien forcément direct. Est-ce que selon vous, il y a une inertie des pouvoirs publics, voire un silence ?
En tout cas, c'est un silence volontaire. C'est un silence volontaire et je me souviens très bien, à bien des égards, de leur mauvaise foi. C'est-à-dire que quand je leur expliquais que leur système de mesure ou leur système d'observation de la situation n'était pas bon et qu'il fallait faire autrement, ils me répondaient « Vous voulez casser le thermomètre, alors vous ne saurez rien ». Je disais « C'est pas ça, je ne veux pas casser le thermomètre, j'en veux un meilleur, j'en veux un bien fait, j'en veux un sincère ». Et je poursuivais souvent, un peu animé par la colère, que la sincérité n'était pas dans leur camp. On a favorisé l'activité économique et on a ignoré les habitants et on n'a pas ignoré l'impact que ça aurait, mais on s'est dit, je pense, qu'on avait du temps, qu'on verrait, que... Bref, on a négligé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, la négligence, elle est coupable parce qu'elle est volontaire.
Nous sommes de retour à Fos-sur-Mer, dans le quartier de la Fossette. Et nous avons rendez-vous à l'Institut éco-citoyen qui s'est créé en 2010 sous l'impulsion du maire de Fos-sur-Mer et avec des habitants qui voulaient savoir enfin ce qu'il y avait dans l'air qu'ils respiraient.
Bonjour, Véronique.
Géraldine. Bienvenue.
Véronique Granier, vous travaillez ici à l'Institut éco-citoyen. Pourquoi avoir créé cet institut en 2010 ?
Suite à des conflits environnementaux, les habitants ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de données. Donc pas du tout de données. Et notamment, il y avait un facteur qui était mesuré, qui est celui de la qualité de l'air. Ils avaient des informations du type bon, mauvais, moyen, ce qui veut tout dire et rien dire. Mais il n'y avait jamais d'alerte. Et ils trouvaient ça assez hallucinant d'habiter au pied d'une quinzaine de sites Céveso avec des panaches noirs, gris, marron et jaune, comme ils savent si bien les faire. Et que jamais, 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 il y a eu, on soit pointé comme un endroit pollué. Si on regardait la cartographie de la qualité de l'air mesurée par la réglementation, Fos n'apparaissait pas. Et c'était quand même interrogeant. Donc le premier réflexe, c'est de dire ils font exprès, c'est l'omerta. Et puis quand le territoire a choisi de se doter d'un outil pour répondre à cet ensemble de questions-là, et ce n'est que la première, donc l'institut a permis de comprendre pourquoi ça se voyait pas.
Philippe Chamaret, vous êtes le directeur de l'Institut éco-citoyen. Vous faites une campagne de mesure de la qualité de l'air en 2011. Et qu'est-ce que vous découvrez ?
La première campagne de mesure de la composition de l'air réalisée par l'Institut éco-citoyen en 2011 a montré que l'air était composé de particules ultra fines en très grande majorité, à 80%, d'une part, et d'autre part que la composition chimique des polluants de l'air à Fos-sur-Mer était extrêmement complexe.
Et ça, on ne savait pas qu'il y avait des particules ultra fines dans l'air ici à Fos ?
On ne l'avait jamais mesuré. On n'avait jamais mesuré les particules ultra fines à Fos-sur-Mer sur une durée d'un mois. Et donc, on n'avait jamais mesuré l'apparition de pics de particules très intenses et le comportement de ces particules sur le temps.
L'organisme chargé de mesurer la pollution ici, c'est RPACA. Mesure mal la pollution ? Mesurez mal la pollution ?
RPACA, qui est chargé de mesurer les paramètres réglementaires, ne mesurait pas ces particules ultra fines, donc passait à côté de 80% des polluants de l'air à Fos-sur-Mer du fait d'une lacune réglementaire. C'est-à-dire qu'il faut faire évoluer la réglementation en connaissant mieux la composition de l'air. Et c'est la raison pour laquelle l'Institut éco-citoyen réalise ses études avec ses propres instruments pour mesurer notamment les particules ultra fines.
Quand vous parlez de réglementation, c'est la réglementation européenne.
C'est une réglementation européenne.
C'est l'Europe qui dit comment on mesure la pollution.
Voilà, l'Europe détermine les paramètres qui qualifient la qualité de l'air.
Et visiblement, on passe à côté de la pollution industrielle, si on s'en tient aux critères européens.
Tout à fait. La mesure de la qualité de l'air ne mesure pas les contextes industriels. Mais ne mesure pas non plus les contextes ruraux. C'est-à-dire que la question des pesticides est aussi dans la boucle. Mais pour l'instant, et à Fos-sur-Mer, c'est bien le contexte industriel qui est en jeu. Et les paramètres définis par la réglementation européenne ne permettent pas de mesurer de façon objective et relativement exacte la pollution de l'air.
Pourquoi c'est si important de mesurer ces particules ultra fines ?
Alors, les particules ultra fines ont une importance du fait de leur impact sanitaire. C'est-à-dire que plus une particule est fine, plus elle rentre profondément dans l'arbre bronchique. Les particules grossières s'arrêtent au niveau du nez ou de la bouche. Les particules un peu plus fines rentrent dans les bronches et les particules les plus fines vont jusqu'aux alvéoles pulmonaires.
L'organisme RPACA, qui analyse la qualité de l'air dans la région et que nous avons rencontré à Martigues, reconnaît qu'il faudrait mesurer la pollution différemment. Actuellement, RPACA mesure les particules de 2,5 à 10 microns, mais pas celles qui sont inférieures à 1 micron. C'est la réglementation européenne et il faudrait la faire évoluer, nous a confié le directeur d'RPACA.
Devant nous, les deux hauts fourneaux de l'aciérie ArcelorMittal sont un peu les totems de la zone industrielle de Fos. Ils s'élèvent dans le ciel, imposants, visibles à des kilomètres à la ronde. Le site d'ArcelorMittal est immense, 2300 salariés, 2000 sous-traitants, une ville dans la ville avec sa propre ligne de chemin de fer pour acheminer les matières premières depuis le port. Ici, on transforme le minerai de fer en acier. Visite discrète et en voiture de cette aciérie, l'une des plus grandes d'Europe.
Qu'est-ce que c'est là, le gros panache de fumée devant nous ?
Donc là, on est sur la phase de production donc de coque. Donc effectivement, donc la coquerie, donc on a 130 fours donc alignés qui vont chauffer le charbon. Et en fait, la phase de procédé, c'est que le charbon, une fois qu'il est chauffé à une certaine température, il faut le refroidir très rapidement. Et donc c'est la phase, c'est la tour à charbon qu'on voit fumer en fait. Et donc là, il y a un arrosage avec de l'eau sur tout le charbon qu'on a chauffé.
Ça, c'est de la vapeur.
Ça, c'est de la vapeur. Sauf qu'elle est mélangée. Elle est quand même très nocive. C'est des travailleurs. Vous pouvez sentir aussi l'odeur. C'est la particularité de la coquerie. Ça, c'est sur les bleus des gens. Et effectivement, on sait que c'est tellement nocif qu'il y a une consigne. Mais ça, c'est la réglementation qui fait qu'il est interdit à un personnel qui a travaillé en bleu sur la coquerie de ramener ses équipements chez lui.
Olivier Dolo est technicien opérateur et délégué CGT chez Arcelor. C'est lui qui nous fait visiter le site. Devant nous, un nouveau panache de fumée jaunâtre s'élève dans le ciel.
Donc ces fameux gaz en fait très risqués en fait des cancérigènes hein, qui sont le résultat de l'exploitation en fait. Effectivement donc malheureusement ces panaches là sont dus à des fuites parce que l'étanchéité n'est pas assurée à 100%.
Donc là, on est à un endroit particulier d'ArcelorMittal, la coquerie. Mais comment on mesure sur l'ensemble du site ce qu'il y a dans les rejets des usines ?
Donc, légalement, il est imposé qu'annuellement, les employeurs fassent une démarche, fassent une campagne de mesurage. Alors avant, c'était fait par les services de l'État. Aujourd'hui, donc il y a un enjeu commercial, c'est qu'il y a des entreprises privées agréées qui sont là, donc ils passent un contrat. Et ils font un relevé annuel pour mesurer un peu et savoir s'ils sont dans les normes sur tout ce qui est déposé sur nos brevets au niveau de l'État. Après, nous, on a pour la population, en accord donc avec la mairie et les mairies environnantes, un système d'information, entre guillemets, où on mesure une pollution instantanée, mais le système de mesurage, il n'est pas à la hauteur à nos yeux. Il est simplement visuel. Alors, pour vous expliquer succinctement, on a une caméra qui est fixée sur les endroits où les cheminées qui peuvent dégager des fumées. En fait, c'est l'opacité de ces fumées qui est mesurée. Il y a une petite cotation en fait du niveau d'opacité. Et voilà comment on va juger du niveau en fait de panache qu'on a pu faire ou pas.
Vous avez l'impression que ces contrôles visuels ne sont pas à la mesure des polluants rejetés dans l'atmosphère ?
Nous, on a l'impression qu'effectivement, c'est pas du tout au niveau. Que le seul truc, c'est d'en fait être sous les seuils légaux européens, en sachant qu'il peut y avoir en plus un cumul, parce que chaque produit a un seuil, mais il est bien spécifique et unique à ce produit. Nous, on a une multitude de produits et de gaz, donc c'est vrai que le simple fait de se contenter d'être au-dessus pour pas être attrapé par la patrouille, en gros, nous, on se dit qu'on se doit d'avoir une exigence beaucoup plus forte pour la santé des gens.
On va se retourner vers vous, Jean-Philippe Muru. Vous êtes le coordinateur CGT de tous les CHSCT de la zone. Donc, vous avez une vue globale sur l'ensemble des usines. Vous nous parliez d'effet cocktail. C'est quoi l'effet cocktail ?
C'est-à-dire que les usines, ce ne sont pas des monopolluants pris les uns à part des autres. En fait, les usines, c'est énormément de polluants qui, entre eux, peuvent avoir des actions qui sont contraires à la vie et à l'évolution. Prenons un exemple qu'on connaît pas mal, c'est les produits CMR. Sur les entreprises, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a des dizaines de produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Et aujourd'hui, c'est l'effet conjugué de ces produits n'est absolument jamais mesuré.
Vous nous dites que cet effet cocktail n'est pas mesuré, c'est-à-dire que dans les chiffres que les usines communiquent à la préfecture, il n'y a jamais l'addition de tous les polluants ?
Absolument pas.
Marie-Christine Savaille, donc je suis directrice de la santé publique et environnementale à l'Agence régionale de santé à Marseille. L'ARS est le bras armé de la politique de l'État en matière de santé. Le directeur général de l'ARS, c'est le préfet sanitaire.
On a une trentaine de sites Seveso sur l'ouest de l'étang de Berre, si on part de Martigues jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, en passant par Fos et Port-de-Bouc. On ne peut pas mesurer l'effet cumulé de toutes ces pollutions ?
Actuellement, non, on ne sait pas le faire. Et encore une fois, là, on a besoin, il faut que les experts, parce que c'est un sujet complexe, il faut pouvoir mesurer de manière adaptée. Et on a besoin que les experts, mais au plan national, hein, c'est un sujet qui doit être traité par vraiment la communauté scientifique. On a besoin que la communauté scientifique nous donne des outils pour mesurer cela.
Très basiquement, pourquoi on ne sait pas additionner ce que produit ArcelorMittal, ce que produit Naftachimie, ce que produit telle aciérie? Pourquoi on ne sait pas cumuler les émissions de polluants? On ne peut pas juste additionner, ça ne se fait
non,
pas.
Non, on ne peut pas juste additionner. Ça ne donnerait pas une vision exacte de la situation.
On a quand même l'impression qu'il y a une espèce de grosse, un peu de remise en question. C'est-à-dire que hier, RPACA nous dit qu'il faudrait changer la réglementation européenne et mieux mesurer les particules fines. L'ADREAL reconnaît que les particules fines, on passe un petit peu à côté. Vous, ici à l'ARS, vous dites qu'on ne connaît pas l'effet cocktail. Donc, il y a quand même une prise en compte qu'il manque des connaissances en la matière.
C'est un fait. On a progressé dans ce domaine-là. Ces éléments-là doivent être mieux pris en considération. Puisqu'on sait que, de toute façon, les facteurs environnementaux ont un impact sur la santé. Donc il faut qu'on soit beaucoup mieux outillé, pas qu'en région PACA, mais d'une manière générale, sur ces sujets. Et quand je dis ça, je ne dis pas davantage que ce que dit le Haut Conseil de la Santé publique, qui, dans son dernier rapport, indique qu'une des priorités, un des enjeux majeurs, au regard de la santé de la population, c'est bien le sujet de la qualité de l'air.
Sophie Michel, vous habitez ici à Port-Saint-Louis et vous avez été adjointe au maire en charge des questions d'environnement entre 2009 et 2014.
Maintenant, il faut dire stop, parce que je pense qu'en 1973, quand les usines se sont construites, il n'y avait pas cette conscience, j'allais dire, d'impact sur l'environnement. On dit maintenant, il faut dire stop et il faut arrêter de faire fonctionner les usines en mode dégradé. On nous met toujours le pognon en avant et stop. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire la santé et le pognon après. Quand vous voyez des usines qui fonctionnent de manière dégradée pendant des années et qu'il n'y a pas de filtre et que ça, ça coûte cher et que ça coûte cher et la santé de la population, elle coûte 10 fois plus cher. Donc je me dis, on a l'impression d'être une population sacrifiée. Et c'est là où j'ai envie de dire, on ne doit pas nous sacrifier, on doit lever la tête et on doit réagir. Et je pense qu'il est, il est encore pas trop tard.
En tant qu'ancienne élue ici à Port-Saint-Louis, vous avez eu l'impression un petit peu qu'il y avait un chantage à l'emploi de la part des industriels ?
S'il n'est pas direct, il est sous-jacent. Il l'est. Mais vous savez, on s'auto-flagelle aussi. Parce que quelque part, le salarié qui travaille dans une usine du coin, il est obligé de se dire « Et moi, mon travail, ça va être quoi ?» C'est la pédagogie qui compte énormément. Faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, ben, c'est pas faire fermer des usines qu'on veut, mais c'est qu'elles soient mises aux normes. Maintenant, il faut prendre le taureau par les cornes.
Derrière nous, on entend le bruit de la raffinerie de l'Avera. C'est l'une des plus grandes raffineries de France. On est face à la mer, tout près de Martigues. Et c'est ici qu'on va rencontrer l'un des responsables du GMIF, le Groupement Maritime et Industriel de Fos. C'est en quelque sorte le syndicat des patrons de l'industrie.
Je suis Marc Bayard, Donc je suis vice-président du GMIF. Donc c'est le Groupement Maritime Industriel de Fos. Donc c'est une organisation qui regroupe tous les industriels qui opèrent sur ce domaine.
Tous les habitants ont en mémoire des panaches de fumée avec des odeurs pas possibles et des couleurs pas possibles. Est-ce qu'il est possible de filtrer mieux ces rejets ?
Alors, je ne vais pas dire que quand on voit de la fumée jaune ou noire, etc., ça, il n'y a pas d'effet, qui n'est pas polluant, bien sûr. Il y a des effets, c'est polluant. Donc, on mesure en permanence. Donc, au-delà de l'aspect visuel, il faut quand même s'attacher à ce que l'on mesure.
Il y a quoi dans ces panaches de fumée ?
Les quatre principaux polluants, c'est... les particules dont vous avez parlé, le SO2, dioxyde de soufre, mais il n'y en a presque plus. On trouve les oxydes d'azote, donc ça c'était le troisième. Puis le quatrième, donc, qui est un petit peu plus diffus, c'est ce qu'on appelle un terme un petit peu technique, composé organique volatile, COV. Donc c'est des composés organiques volatiles qui sont émis dans l'atmosphère. Dans la période 2005 à 2015, c'est ça, sur 10 ans, on a réduit sur ces quatre polluants de façon très importante. Sur le premier, donc le SO2, où je disais il n'y en a presque plus, c'est plus de 70% de réduction, 71% de réduction exactement. Donc les particules ont été réduites de 65%. Et quand je dis particules, c'est les particules. Alors, les particules fines, on ne les mesurait pas encore, ou les ultrafines. Ensuite, les oxydes d'azote dont je parlais, ils ont été réduits, eux, de 53%. Et les fameux COV, donc, de 40%.
Donc vous dites qu'en fait, les industries polluent moins aujourd'hui qu'il y a 15 ans.
Tout à fait. Et beaucoup moins qu'il y a 30 ans. Parce que ça n'a pas commencé il y a 15 ans, je veux dire. La démarche, elle a commencé il y a au moins 30 ou 40 ans. Et je pense qu'on aura, et on a besoin, hein, d'études, hein, approfondies pour mieux comprendre.
Encore des études, vous pensez ? Ça ne vous suffit pas de...
Alors, ça suffirait s'il suffisait de dire « on tourne un bouton, il n'y a plus de pollution ». Il faut comprendre exactement sur quoi on doit agir. Les investissements sont coûteux, donc là, c'est pareil, on peut pas... si ça coûtait rien, on aurait déjà investi, mais bon. Donc, on a besoin de cibler. Mais il faut aussi comprendre sur quoi on doit progresser.
Ce qui revient beaucoup ici, c'est pourquoi avoir tout cumulé sur cette petite zone ? Alors, on sait bien qu'il y a des infrastructures de transport et qu'une industrie en appelle une autre, mais pourquoi avoir concentré autant d'industries lourdes sur ce territoire ?
Pour nous, c'est une évidence, mais je vais vous l'expliquer. D'abord, cette zone, c'est un port, c'est l'entrée vers l'Europe de la Méditerranée ou c'est la sortie de l'Europe vers la Méditerranée. Il faut aller vers une concentration, mais une concentration pas forcément étalée comme elle l'est là. C'est, on parle de plateforme. Et si on concentre de l'industrie sur une plateforme, on va faire interagir différents types de procédés. Autrement dit, on va développer ce qu'on appelle des synergies.
Mais est-ce qu'il fallait du coup construire tout autour ?
Oui, en fait, il fallait construire tout autour parce que lorsque ça a été développé, il n'y avait pas de construction. Et c'est les industriels qui sont implantés, qui ont construit les logements.
Pour les ouvriers ?
Pour les ouvriers, les cadres, pour tout le monde. Bon, moi, j'ai habité dans un village d'entreprise pendant une quinzaine d'années, avant de m'éloigner un tout petit peu, mais en restant dans la zone. Aujourd'hui, si on a des résultats qui disent « c'est parce qu'il y a de la pollution industrielle qu'il y a deux fois plus de maladies qu'ailleurs », il faut régler le problème, mais pas forcément en éloignant les gens, en réduisant à la source. On parle toujours de réduction des problèmes à la source, ou alors un peu les deux. On peut toujours réécrire l'histoire et dire oui, effectivement, si on y avait pensé il y a 30 ou 40 ans, on aurait peut-être conçu les choses un petit peu différemment.
Il y a 40 ans, Betty Brogy vivait déjà à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Elle est née ici, elle a vécu toute sa vie ici. Aujourd'hui, à 57 ans, elle a développé trois maladies, dont un urinome lombaire, une tumeur non cancéreuse, mais très douloureuse.
Le résultat se traduit par de très très grosses douleurs. Des raideurs, des blocages, des petites paralysies des membres. aussi bien inférieure que supérieure. Donc une perte de mobilité, une perte de réflexion, parce que je suis sous morphine depuis plusieurs années, donc il y a une atteinte quand même au niveau intellect. Il me faut un certain temps pour trouver mes mots. Il y a des jours où je vais un petit peu mélanger les syllabes, c'est assez marrant. Mais bon, on s'habitue, hein, on s'habitue.
Qu'est-ce qui vous donne la certitude, ou en tout cas l'intime conviction, que ces trois pathologies dont vous souffrez sont liées à la pollution?
Parce qu'il y a quelques années, avec l'association de médecins de Provence, on a participé à une campagne de prélèvement sanguin pour savoir si on avait ou pas dans notre sang, dans notre organisme, des perturbateurs endocriniens, style PCB. Or, il s'avère que j'en ai. Si j'ai du PCB, malheureusement, celui-là, cette molécule, ne voyage pas tout seul. Il traîne avec lui des métaux lourds, du cadmium. J'ai dû emmagasiner depuis des années tout ça au fond de mon organisme. Et ça s'est traduit pour moi par ce neurinome.
Justement, quand vous avez posé la question à vos médecins, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu?
On va dire au joker. On nous regarde avec des yeux complètement ahuris, un regard comme si on était un peu fou, un peu illuminé, un peu excentrique, ou enfin, à côté de la plaque. Ou alors on vous dit, oui, effectivement, la pollution pourrait effectivement être un de ces facteurs pour votre cas, mais vous savez, comment faire pour le déterminer? On n'a aucun moyen de le savoir. Donc l'essentiel pour vous, c'est d'essayer de trouver un traitement pour vous soulager. Et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a rien trouvé pour me soulager.
Gérard, vous êtes le compagnon de Betty et vous êtes le président de l'association de défense de l'environnement Au fil du Rhône. Est-ce qu'il est éventuellement envisageable un jour pour vous d'introduire une action en justice contre les industriels?
Je vais vous répondre de manière un petit peu à la normale. Il n'est pas inenvisageable. Voilà, c'est pas envisageable, c'est pas inenvisageable. Parce que après, il faudra avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir monter au créneau. Et c'est la difficulté d'ailleurs qu'on rencontre. Hein. C'est une difficulté qu'on rencontre d'ailleurs depuis fort longtemps. Bon, c'est bien simple, hein. C'est quand on se penche un petit peu sur le territoire, on s'aperçoit que il y a quasiment pas une molécule du tableau de Mendeleïev qui ne soit pas produite ici. Force est de constater que même si elles sont produites en quantité inférieure par rapport aux décennies précédentes, ben elles sont toujours là et puis elles se combinent. Et malheureusement, la science ne nous permet pas de dire si elles ont un impact et quel est l'impact, l'importance. En fait, il est un peu naïf d'imaginer qu'on puisse passer à travers les gouttes. Voilà.
Pourquoi, selon vous, les pouvoirs publics ont mis du temps et mettent encore du temps à réagir alors qu'il y a des indicateurs de santé qui sont vraiment pas bons?
Pour moi, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est la raison plus d'État. On a quand même à côté une des plus grandes zones industrielles d'Europe. Toutes les données qui pourraient enrayer le développement tel qu'il est imaginé au fil des années, ça serait malvenu. D'autre part, malheureusement, les institutions plus locales, je pense, sont rentrées dans une forme de déni. Vous savez, c'est comme un déni de grossesse chez une femme. Ils ne veulent pas reconnaître parce que ça les gêne trop, parce que ça va gêner leur vie, ça va engendrer des changements auxquels ils ne sont pas prêts.
Parce que 40 000 emplois dans la zone industrielle?
Parce que très clairement, il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup d'emplois induits, il y a tout un développement des cités qui s'est organisé autour de cet aménageur principal. Et on a du mal à imaginer un développement qui soit différent. Et donc, forcément, on est un peu coincé, quoi. Voilà. Et puis, culturellement, on n'est pas habitué. On a beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse avoir du mal et recevoir du mal de ceux qui nous ont donné à manger.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci.
Merci à vous d'être venus nous rencontrer. Ça fait plaisir. Au moins, on existe. Un petit peu.
C'était Interception, pollution industrielle des particules et des hommes, à réécouter ou podcaster sur le site de France Inter, www.franceinter.fr.